Donc, c'est un grand plaisir et privilège pour moi de vous présenter nos deux conférenciers invités. Marie-Ève est présentement présidente fondatrice de Notre Boîte, qui travaille sur le terrain au renforcement des collectivités. Elle est spécialisée dans l'évaluation des impacts sociaux des grands projets de développement. Elle est également professeure associée au Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et l'environnement, Symbiose, à l'Université du Québec à Montréal. Elle est co-auteure du livre « Acceptabilité sociale, sans oui, c'est non », publié en 2017 chez Éco-Société. Le livre « Ceux qui s'intéressent aux dossiers d'implication citoyenne, l'environnement, l'impact de l'environnement sur l'impact social, environnemental, sur les grands projets », c'est vraiment un incontournable à lire qu'elle a écrit en compagnie de Pierre Batelier, que je vous présente à l'instant. Pierre Batelier enseigne depuis 10 ans la responsabilité sociale de l'entreprise à HEC Montréal. Il complète actuellement un doctorat en sciences de l'environnement à l'Université du Québec, s'intéressant dans le cadre de sa thèse au rôle de l'État au regard de l'acceptabilité sociale des grands projets. Il a été directement impliqué dans la mise sur pied de l'animation de 2 collectifs, citoyens et scientifiques, dans le dossier gaz de schiste au Québec. Il est également cofondateur et président de la coopérative de solidarité Les Valoristes à Montréal, qui ça correspond aux valeurs qu'on véhicule, insérer des personnes itinérantes et personnes avec des problèmes d'éthique de santé dans toute la question du recyclage de bouteilles, de récupération de contenants. Donc, il allie l'environnement et intégration sociale. C'est aller voir le site Les Valoristes, ça vaut la peine. Je suis allé y jeter un coup d'œil.
Parfait. Donc, je vais commencer par me présenter. Effectivement, Jacques a fait une très, très bonne introduction. Mais avant qu'on m'interrompe à cause du micro, je disais que c'était vraiment un plaisir pour Pierre et moi d'être ici aujourd'hui et de profiter des couleurs de la région en ce début d'octobre. C'est vraiment le fun d'être ici aujourd'hui et de pas être à Montréal dans des circonstances comme celle-là. Donc, je suis Marie-Ève Maillé et je suis présidente fondatrice de Notre Boîte. Effectivement, depuis un petit peu plus d'un an maintenant, j'accompagne des groupes citoyens ou des comités de suivi dans des démarches de participation citoyenne et dans des démarches de concertation. Effectivement, j'ai travaillé beaucoup dans la dernière année sur le terrain avec le comité de suivi de la mine canadienne Malartic en Abitibi. C'est un gros dossier. Mais avant ça, j'étais... Je suis une défroquée du milieu universitaire où je n'étais plus heureuse. Donc, après une thèse en communication où je me suis intéressée à la question de l'acceptabilité sociale, en fait, à la division sociale d'un projet éolien dans la MRC de l'Érable, j'ai décidé d'aller travailler sur le terrain et de mettre à profit mon expertise là où elle était utile avec les groupes citoyens et avec les différentes parties prenantes qui en avaient besoin. Ma thèse de doctorat, vous en avez peut-être entendu parler parce que j'étais la chercheuse de l'UQAM qui a résisté à la demande de diffuser les données confidentielles de recherche. Et c'est une bataille que j'ai menée l'année passée et que j'ai gagnée en juin dernier. Ça vaut la peine de le souligner parce que ce jugement-là risque de faire jurisprudence au Québec. C'est important que les scientifiques puissent préserver la confidentialité des données de recherche des gens qui acceptent de répondre à leurs questions. Donc ça, c'est une bataille que j'ai gagnée en juin dernier et je suis très, très contente de ça et très fière d'avoir mené la bataille jusqu'au bout. Mais ce qui est intéressant, en fait, dans le dossier de l'érable, c'est un projet éolien qui était très controversé, qui est toujours devant les tribunaux. Le procès devrait avoir lieu l'an prochain. C'est un projet, en fait, c'est le projet sur lequel je me suis penchée durant ma thèse de doctorat. J'étais la seule personne sur le terrain à ce moment-là à m'intéresser à ce qui se passait. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, en 2009-2010, contester les projets éoliens, c'était pas vraiment la mode. Et ça l'est d'ailleurs très peu aujourd'hui. Les citoyens qui sont prises avec des grands projets de développement industriel de cette ampleur-là, qui se passent à proximité de leur habitation, à proximité de leur milieu de vie, sont très souvent laissés à eux-mêmes. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'aller avec eux sur le terrain, de voir comment ce projet-là avait divisé leur communauté. Et après ma thèse de doctorat, j'ai eu envie d'écrire cette histoire-là et de l'écrire d'une façon qui n'est pas universitaire, parce que je ne sais pas si vous en lisez beaucoup des articles scientifiques et des textes universitaires, des fois, c'est tout aussi plate à lire qu'à écrire. Donc, j'avais envie d'écrire les choses différemment. J'ai produit un essai que j'ai soumis dans un concours d'essai, le concours Bernard Mergler, et j'ai gagné la première place de cet essai-là. Merci. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, c'est de là qu'est né le projet de livre que dont on va vous parler aujourd'hui. Parce que en gagnant la première place, on m'a offert de publier mon texte chez Éco-Société. Et de fil en aiguille, le projet d'essai s'est transformé sur l'acceptabilité sociale de l'éolien, s'est transformé en projet plus vaste sur l'acceptabilité sociale en général. Et finalement, l'essai sur l'érable est devenu une annexe dans notre essai. Parce que quand j'ai accepté de faire ce plus grand projet-là, c'était une occasion en or que je pouvais pas refuser, mais j'ai eu l'impression un peu de refaire ma thèse de doctorat. Et s'il y en a parmi vous qui en ont déjà fait une, vous savez qu'une, c'est amplement suffisant et qu'on n'a pas envie d'en faire une deuxième une fois qu'on a fait la première. Et donc, en faisant des entrevues, j'ai rencontré Pierre et je le connaissais pas beaucoup. On s'était parlé peut-être 2-3 fois dans notre vie et j'ai dit à Pierre, aurais-tu envie de l'écrire avec moi, ce livre-là? Il a fait semblant de réfléchir quelques semaines, puis il m'est revenu en me disant « oui, j'embarque ». Et c'est à ce moment-là que le projet a vraiment démarré puis qu'on a on est arrivé à produire ça dans un laps de temps qui était, ma foi, très, très rapide. Donc, c'est comme ça que ce projet-là est né. Puis je vais maintenant passer la parole à Pierre pour qu'il vous explique, lui, qui il est et d'où il vient.
Bonjour à tous. Oh, mon Dieu, je vais parler un petit peu plus loin. Oui, c'est ça. Ce livre, c'est d'abord une magnifique rencontre avec Marie-Ève. Là. Les dimensions humaines sont souvent prépondérantes dans beaucoup de projets, de luttes citoyennes, mais aussi derrière, évidemment, nos vies professionnelles, l'écriture de livres comme ça. Donc, en tout cas, c'est merveilleux. Je suis bien content d'être là, puis faire ça ensemble, c'est toujours un plaisir. Moi, ce qui m'a interpellé dans ces questions-là, toujours un peu la tension entre le milieu universitaire puis les réalités du terrain. Moi, j'ai pas encore terminé ma thèse. Je suis en phase terminale, j'espère, de finalisation. Non, c'est une étape un petit peu difficile sur la fin, là, mais on va passer au travers. Et par contre, au contact du milieu universitaire, des publications, je sentais une certaine frustration à la distance que prend le milieu universitaire, des fois, des récits citoyens, de toute la connaissance qui est générée autour des grandes controverses qu'il y a eu les années passées, une espèce de snobisme un peu par rapport à un certain matériel. Et l'autre élément qui m'a interpellé, c'est le fossé que je voyais entre le traitement que faisaient les médias puis le monde académique parfois des mobilisations sociales au Québec puis les réalités qu'on constatait sur le terrain, réalités que j'ai beaucoup plus vécu dans les dossiers, surtout du gaz de schiste, dossiers miniers aussi, où j'étais plus directement impliqué dans différents comités citoyens. Et aussi dans le dossier des valoristes. Juste rapidement, les valoristes, c'est les glaneurs qui vont les ramasser, les contenants consignés là, dans votre bac de recyclage ou souvent à terre un petit peu partout, puis qu'on a tendance à oublier. Là. C'est à peu près 2000 personnes juste sur l'île de Montréal qui survivent ou qui arrivent à pas tomber dans la rue grâce à ces revenus-là. Là. Donc, faut juste essayer de les faire exister. Ça aussi, c'est tout un combat social qu'on mène. Puis essayer d'ouvrir des centres de tri de ces contenants consignés en milieu urbain, c'est aussi des beaux enjeux de voisinage du côté promoteur. Donc, j'ai aussi les deux facettes de ces enjeux-là d'acceptabilité sociale. Alors, donc ce livre-là, c'est sûr, il y a des objectifs personnels, mais aussi, nous, l'idée, c'était vraiment d'aider les gens qui vivent des conflits à mettre des mots, parfois, sur ce qu'ils vivent. On a ressenti le besoin, puis on a eu aussi un retour positif dans le fait qu'on vient les outiller. Puis c'est ce qu'on essaie de faire, d'apporter les nuances dans plusieurs des caricatures qu'on a dans le débat public. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé, où on est toujours dans un mode binaire, les opposants contre les promoteurs, les pour contre les contre, les gens concernés contre ceux qui n'ont pas leur place ici. T'sais, on met toujours les gens dans des cases, et bien souvent, le citoyen mobilisé dans cette opposition n'a pas toujours le beau rôle. OK. Et ça fait en sorte que souvent, ça mine sa capacité à participer. C'est comme si sa légitimité à s'ouvrir la boîte, à prendre la parole, était comme minée dès le départ. Puis ça fait en sorte aussi, quand les acteurs veulent dialoguer, que ce soit les militants avec les citoyens, la discussion avec les élus, les promoteurs, ben ce dialogue est plus difficile à construire. C'est parce qu'on se comprend pas, on n'apprend pas à se parler. Donc ça, c'était un des premiers buts. Et après, l'idée, c'était aussi d'apporter des pistes d'amélioration des outils qu'on a actuellement pour évaluer les projets, faire de la participation publique, et évidemment, toute la prise de décision gouvernementale derrière ça.
Parfait. Donc, si je vous demandais qu'est-ce que c'est l'acceptabilité sociale, rapidement, je dirais qu'aujourd'hui, c'est le mot qu'on emploie pour parler d'un projet qui aurait l'appui populaire. C'est le mot qu'on emploie aujourd'hui. Ça fait des années qu'on parle de ce phénomène-là, mais avant, il avait d'autres noms. On parlait de conflit, on parlait d'opposition, on parlait de contestation, mais le phénomène n'est pas nouveau, n'est pas récent. D'ailleurs, si je prenais un moment puis que je demandais de me donner 3-4 exemples de quand vous pensez à acceptabilité sociale, des projets, des dossiers, des gens qui sont en mesure ici de me donner des exemples de problèmes d'acceptabilité sociale. Je vois des mains qui se lèvent.
Les hydrocarbures en Gaspésie.
Les hydrocarbures en Gaspésie, c'est un très bel exemple.
Le projet Est aussi
l'identité. Le projet Énergie Est, vous voulez dire? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles ce matin. Donc, je vous offre la possibilité, soit on fait peut-être une minute de silence ou alors une bonne main d'applaudissement. Effectivement, une autre main derrière, ici. Le projet Ménarno à Sept-Îles est effectivement un projet qui a soulevé des enjeux. Oh, parfait, parfait, excellent. On sera déjà challengé. Il y avait une main ici. La cimenterie à part Daniel Gascon, oui.
Et la plupart des projets d'industrie minière dans les pays du Sud.
Oui, effectivement, ce n'est pas un enjeu qui est purement québécois. Très juste, derrière.
La construction de barrages sur la rivière Mère-Mère.
La construction de barrages est aussi, oui, les enjeux d'énergie, oui.
La Romaine.
La Romaine, effectivement. Madame?
Le port méthanier.
Le port méthanier, oui, c'en est un autre, effectivement. Madame Issan Rouge? Dans les Laurentides, à Saint-Adolphe-d'Howard, effectivement. Effectivement. Donc, vous voyez rapidement, en fait, tout le territoire du Québec connaît des problèmes qui sont liés à l'acceptabilité sociale. Mais ce qu'on tient à dire ce matin, c'est que ce n'est pas que les grands projets de développement qui suscitent des enjeux d'acceptabilité sociale. Voulez-vous en ajouter un autre?
Je voulais mentionner qu'on utilise plus de pesticides dans la ville de Longueuil pour les gazons.
Mm-hmm. Bien, je trouve ça tout à fait intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, ça pose le regard sur le fait que les enjeux d'acceptabilité sociale, ça ne concerne pas que les grands projets industriels ou que les grands projets énergétiques. Ça peut être des plus petits projets. Ça peut être des politiques publiques, des politiques sociales qui soulèvent des enjeux d'acceptabilité sociale. Ça peut être même des projets à tout petite échelle. Des fois, l'établissement d'un sens unique dans un quartier, ça peut créer des enjeux d'acceptabilité sociale si ça modifie énormément le paysage et le milieu de vie. Donc, en fait, c'est pas que les grands projets qui soulèvent ce genre d'enjeux-là. Ça peut être aussi plus petit.
Oui. Puis grand, c'est toujours relatif, là. Un projet de petite échelle, mais dans une toute petite communauté, peut devenir très grand aussi pour cette communauté-là. J'ajouterais peut-être aussi tous les projets de développement urbain, résidentiel, incluant notamment la place que les écoles occupent aussi dans ces développements-là, là, qui sont des enjeux importants quand on parle beaucoup d'acceptabilité sociale. Les parcs aussi, là, au-delà des mines, mais aujourd'hui, la réalisation de parcs, dans un sens comme dans l'autre, là, l'histoire, je pense, je parlerai tantôt de l'importance de retourner en arrière sur les grandes mobilisations sociales, mais on est dans un parc de la CEPAC aujourd'hui, ben, on pensait à Forillon, à l'historique qu'on a, à l'expropriation de près de 225 familles. Donc, ça s'est pas toujours fait non plus dans des conditions toujours faciles. Le dernier parc national qu'on a créé au Témiscouata, ça a été un grand débat qui a beaucoup divisé la communauté aussi également et dont on n'a pas toujours conscience. Donc oui, il y a ces grands projets industriels, mais il y a aussi d'autres projets à différentes échelles. Et en fait, ce qu'on veut apporter, puis ça va être le premier point de notre opposition un petit peu caricature qu'on veut déconstruire, c'est l'opposition entre justement opposants et promoteurs. Ce qu'on voulait dire, c'est qu'à la base, tout projet, que ce soit même une école, un hôpital, évidemment un centre pour personnes âgées, ça constitue quand même un changement, donc une potentielle perturbation pour le milieu qui l'accueille. Ça, je pense que c'est un aspect important à reconnaître. Et un autre élément qu'on veut important, souvent un petit peu plus quand on est dans les ressources naturelles, on utilise souvent la carte. La carte, c'est quelque chose de figé. Donc on dit, on va installer notre projet ici, mais quand on arrive sur le territoire est dynamique. Il y a déjà d'autres projets qui sont en cours. Il y a des projets de vie, des projets professionnels, il y a d'autres usages du territoire. Et quelque chose qui est assez particulier, sur lequel on a vraiment voulu mettre l'emphase, c'est de dire que justement, souvent, on caricature les gens qui remettent en question les nouveaux projets, souvent qui viennent de l'extérieur sur le terrain, comme des opposants. Par défaut, ils deviennent tout de suite dans le rôle de l'opposant. Pourtant, ils sont souvent eux-mêmes promoteurs déjà d'autres projets. Par contre, celui qui arrive de l'externe, qui vient s'opposer à ces projets existants sur le territoire, lui devient promoteur avec tout l'aura positif qui vient derrière. Et de manière générale, ça joue sur tout un discours où on a tendance à stigmatiser un peu la contestation sociale, l'opposition. C'est pas bien. Vous savez, normalement, les gens sont pour les projets. Ça, c'est encore drôle, là. C'est quelque chose qu'il faut, quand on creuse derrière, est-ce que les gens sont vraiment pour certaines filières, certaines activités? C'est pas toujours le cas. Donc, on la présente, l'opposition, comme un vilain défaut, une espèce de déviance sociale. Puis, je pense qu'il y a un bout de chemin important à faire là-dessus. On entend parfois les gens s'opposent pour s'opposer. Qu'ils ont rien d'autre à offrir, parfois c'est faux, c'est parce qu'on n'écoute pas, on n'a pas regardé ce qu'ils offraient déjà, ou parfois on leur demande, ok, vous avez pas, on pourrait créer 500 emplois, mais comment allez-vous créer 500 emplois? Bon, est-ce que c'est vraiment leur rôle d'avoir constamment à offrir une alternative avant d'avoir le droit de dire, ok, par contre j'ai d'autres préoccupations légitimes? C'est un petit peu problématique. Une image merveilleuse de Marie-Ève, c'est de dire, est-ce qu'il faut penser c'est comme exiger aux gens de dire de quelle couleur vous allez repeindre votre maison pendant que la maison est prise en feu. Les gens sont dans l'urgence, ils n'ont pas tout le temps l'énergie pour dire voici ce qu'on va être capable de faire après, peut-être, ou d'autres comme autres projets. Donc ça fait en sorte, c'est parfois difficile de mettre la première pancarte, non, on veut pas être associé aux nonistes, aux activistes, aux chialeux. Combien d'entre nous ont entendu ça quand ils étaient dans les luttes citoyennes? Mais c'est des caricatures qui jouent pour beaucoup, puis qui parfois freinent un peu l'implication citoyenne sur le terrain. Mais il y a pire que ça, comme qualificatif.
Effectivement, le pire du pire, c'est de se faire dire « Ah, on sait bien, ce n'est que du pas dans ma cour. » Ça, c'est la déviance ultime. D'ailleurs, on entend souvent parler du syndrome pas dans ma cour, comme si on venait de diagnostiquer une maladie aux gens. C'est une anomalie. Ça ne devrait pas être. C'est un problème qu'on vous affuble déjà d'une étiquette avant même de commencer la discussion. Donc, le pas dans ma cour, ce serait finalement une réaction égoïste, individualiste, de gens qui sont situés trop près des installations, donc ils ne sont plus en mesure de bien les évaluer, sont trop près. Et leur réaction n'est qu'épidermique, dans le fond, et elle relève d'un intérêt individuel. Alors que, finalement, cet argument-là, il sert essentiellement à disqualifier le discours de gens qui ont une légitimité dans le débat et une légitimité à s'exprimer. Donc, le pas dans ma cour, c'est un argument qui sert à clore le débat, parce qu'il n'y a pas de discussion ensuite. C'est du pas dans ma cour, c'est du pas dans ma cour. Ça clôt le débat, ça explique rien, et ça permet surtout aux décideurs de ne rien faire. Moi, j'aime bien l'image du feu sauvage dans ce cas-ci. C'est quand on est aux prises avec un problème de pas dans ma cour, on fait rien, surtout on joue pas avec, puis on attend que ça passe. Donc, c'est souvent comme ça que c'est perçu par les décideurs. Ça leur permet finalement de se défaire de leurs responsabilités. Et ça leur permet aussi de ne pas s'intéresser aux gens, à savoir pourquoi ces gens-là ont des questions, ont des préoccupations. Et c'est des préoccupations qui sont essentielles de comprendre avant d'aller plus loin dans le développement des projets. Parce que les impacts sociaux des grands projets, dans un premier temps, il faut bien les évaluer pour être en mesure de les éviter, dans un premier temps, de les réduire quand il y en aura, mais qu'on ne peut les éviter, et ensuite de ça, de les compenser en nature d'abord et en argent ensuite. Oh, il y a une question ici. Je ne m'attendais pas à ça. Oui, on peut la prendre, peut-être, oui. 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 Est-ce qu'on a entendu la question de madame? Qui elle demande pourquoi, finalement, on a peur des citoyens qui posent des questions ou même dans le milieu de travail, pourquoi on a peur des gens qui posent des questions? Donc, moi, ce que je pourrais dire, en fait, dans le développement des projets, c'est que les questions, c'est généralement des délais et c'est des coûts. Et c'est aussi un promoteur qui perd le contrôle sur le message qu'il veut diffuser. Donc, il y a une volonté de contrôler un message parce qu'on n'aime pas, on n'est pas habitué à débattre, on ne sait pas se donner les moyens d'affronter les discussions et les préoccupations, puis on veut toujours que ce soit lisse. Puis quand il y a des questions, c'est justement ça, c'est des vagues à la surface et on n'aime pas ça généralement. Alors que des fois, il peut y avoir des vagues, mais ça ne veut pas dire que ça va finir en ouragan. Ça peut être des vagues qui auxquelles on va trouver des solutions ensemble, collectivement, on va trouver des moyens d'éviter que ça empire.
Oui, puis peut-être rapidement aussi, une autre opposition qu'on a fait, c'est quand je disais les pour, les contre, c'est que souvent, moindrement, vous avez une question, vous n'êtes pas peut-être fondamentalement opposé au projet, mais le simple fait de poser une question, on va dire, OK, ben vous êtes contre. Oui, mais peut-être c'est un aspect, c'est un... Peut-être oui, mais si je veux qu'il existe, vous allez être obligé d'être dans le camp contre. Et donc, des fois, je sais que c'est un petit... En tout cas, ça joue aussi beaucoup sur les dynamiques, sur la... au niveau citoyen, donc justement, à devoir justement être polarisé dans justement l'opposant de service... En tout cas, donc ça joue dans le discours public. Il faudrait qu'on relégitime ces positions intermédiaires, mais on y arrive un
oui,
petit peu.
Oui, on va y arriver, effectivement. Pierre, prendre l'avance dans ma partie à moi. C'est ça. en fait, c'est important qu'on comprenne ce que les gens estiment perdre quand on leur propose des grands changements dans leur environnement pour être en mesure d'en tenir compte. Et l'argument du pas dans ma cour, essentiellement, c'est un baillon social. Et si notre livre sert à ça, en fait, à déconstruire l'argument, puis à faire en sorte qu'on ne l'utilise plus, et que les élus n'y aient pas systématiquement recours, et que les promoteurs n'y aient pas systématiquement recours. D'ailleurs, je vous dirais que ceux qui l'utilisent le plus, ce sont les élus plus que les promoteurs. Et on aura fait quelque chose d'important avec notre livre à ce moment-là. Mais justement, en fait, très souvent, quand il est question de savoir ce que pense la population, les promoteurs et les élus vont faire appel à la fameuse majorité silencieuse. Vous savez, celle dont on ne sait rien, mais qui forcément, puisque l'opposition à un grand projet est une déviance, forcément la majorité silencieuse, elle est en faveur des projets. En fait, c'est ça le raccourci qu'on fait, c'est que la majorité silencieuse, elle est favorable au projet parce que, en fait, quand il n'y a pas de forme explicite de contestation, c'est forcément un appui. Et ça, ça pose problème, en fait, parce qu'on se dit finalement que les gens qui se taisent sont pour, sinon ils contesteraient. Et ça, la majorité silencieuse favorable, elle est historiquement populiste, mais elle est très, très présente dans le discours. Alors, pourquoi les gens se taisent? Il y a plusieurs raisons. En fait, des fois, ça peut être par choix. Ça peut être un silence stratégique, c'est-à-dire qu'on attend de savoir... Quel groupe va se prononcer? On attend d'en savoir plus. On attend de le moment où ce sera pertinent de s'exprimer, où on attend aussi les règles, hein, parce que des fois, il y a des moments, il y a des lieux pour s'exprimer et exprimer une opposition. Donc, le silence peut être choisi. Le silence peut être contraint. Dans certains milieux, ça peut être très, très difficile. Par exemple, l'image qu'on utilise dans le livre, c'est dans le milieu agricole. Un agriculteur qui voudrait prendre une position qui est différente de celle de son syndicat, de son UPA local, l'Union des producteurs agricoles locales, il faut qu'il se lève de bonne heure pour faire ce genre de sortie-là. Donc, des fois, il y a des contraintes, il y a des gens qui sont contraints au silence. Dans certains milieux syndicaux aussi, par exemple, on prend l'exemple de la Côte-Nord, où c'est très, très difficile d'exprimer une opinion divergente. En fait, il y a des fois même, c'est des gros bras et des matamores qui t'attendent quand tu oses le faire. Donc, dans certains contextes, on reste silencieux parce qu'on n'a pas le choix de l'être. Et la dernière raison qui peut faire en sorte que les gens soient silencieux, c'est important, c'est de l'évoquer, c'est le manque, la perception, en fait, de manquer de compétences, de manquer de ressources pour prendre part au débat. Et là, à titre de réseau des établissements Vert Brundtland, vous êtes directement concernés dans la mesure où c'est les enseignants, c'est le milieu de l'éducation qui équipe les gens, qui leur donne les compétences et tout ça pour qu'ils se sentent ensuite compétents pour prendre la parole quand un projet près de chez eux suscite des questions et des oppositions. Mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà participé à un bureau d'audience publique sur l'environnement. Si certains d'entre vous, oui, des mains qui se lèvent, bravo, c'est le fun. D'ailleurs, dans le livre, on propose un crédit d'impôt pour les gens qui font ça. C'est une... pour les gens qui font de la participation citoyenne, en fait, et qui prennent le temps de s'impliquer dans l'évaluation des grands projets. On dit qu'il devrait y avoir une reconnaissance de ce que ça implique pour les citoyens que de faire ça. Mais, en fait, ça demande des compétences. Et il y a certaines personnes qui ne se sentent pas compétentes. Ouh! Oh là là! C'est ça. Il y a certaines personnes. Oui, c'est particulier. OK. Il y a certaines personnes qui se sentent pas compétentes pour se faire.
Il y a l'oiseau. Sors l'oiseau qui est caché sous ton.
Il y a un oiseau. Effectivement, c'est la concurrence. Je pense que oui. On essaie de nous faire taire.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'on dit des choses qui dérangent.
C'est moi qui suis trop.
C'est ça, quelqu'un qui est en train de gruger le sens. Ah, peut-être c'est toi. T'es en train de gruger le fil. Voilà. Donc, et ça, c'est important de tenir compte de ça. Dans le livre, on évoque l'image que j'aime beaucoup d'un chasseur abitibien qui est tatoué jusqu'ici, qui a pas l'habitude, finalement, d'être intimidé dans la vie et qui, quand doit aller devant le bar pour poser une question, se sent, explique que le cœur lui débattait et qui, quand il retourne s'asseoir dans la salle ensuite, il se demande, c'était-tu bon ma question? Je sais pas, c'était-tu bon? Parce que dans le fond, c'est tellement un événement stressant, en fait, quand on y pense pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole en public. Et ensuite de ça, pire que ça, ils doivent rédiger un mémoire. Les gens qui ont quitté les bancs d'école depuis le secondaire ou qui ont plus l'habitude de d'écrire des textes d'opinion comme ceux-là, on leur demande d'écrire leur opinion pour l'exprimer au gouvernement. C'est pour certains d'entre eux, là, c'est « boy, je me sens pas compétent. Je vais faire confiance qu'il y a d'autres gens qui vont le dire mieux que moi. » Et puis ça, c'est une raison qui fait en sorte que certaines personnes restent silencieuses. Et entre les gens qui sont farouchement pour et les gens qui sont farouchement contre, il y a toute un ensemble de positions intermédiaires qui sont finalement la partie immergée de l'iceberg, dont on n'a aucune idée. Puis quand on prétend savoir ce que la majorité silencieuse pense, c'est comme si on dit qu'on lit dans les entrailles de poisson, en fait. On ne le sait pas, parce que justement, cette majorité-là, elle est silencieuse. Et on présente différentes positions intermédiaires qui peuvent expliquer, finalement, qu'on ne sache pas ce que les gens pensent réellement des projets. Et je vous en présente deux aujourd'hui rapidement. Il y a celle qui n'est pas au courant. La personne qui n'est pas au courant qu'il y a un projet dans sa cour, et croyez-le ou non, ça arrive extrêmement fréquemment. Les gens ne savent pas, ils le comprennent quand la pépine recule. Et c'est frappant, mais ça, c'est un réel problème. Les gens qui ne sont pas au courant, forcément, ne s'opposeront pas puisqu'ils ne savent pas qu'il y a un projet. Ou ils ne poseront pas de questions, ou ils diront pas, peut-être, attendez, que c'est-tu possible de le mettre à tel autre endroit. Donc ça, c'est un problème réel, et cette personne-là, on peut pas dire qu'elle est pour. Elle est pas au courant. C'est pas la même chose. Et il y a aussi une série de gens, des fois parmi les gens qui ont déjà mené des luttes citoyennes qu'ils ont perdues, il y a aussi des gens qui, à l'autre opposé, qui, eux, sont au courant, sont très bien au courant, mais ils sont désillusionnés, sont désabusés, puis ils pensent que ça a été décidé ailleurs. C'est déjà canné, il n'y a rien qu'on peut faire, le projet va voir le jour. Puis ça, c'est pas des gens nécessairement qui sont pour, mais c'est des gens qui ne prendront pas la parole en public.
Yes. Et donc, on parlait du silence. Moi, je vais vous parler un petit peu du bruit, qui est un peu le corollaire. Donc, une tendance qu'on a vue beaucoup dans les dernières années, puis une pression qui vient aussi de la part du milieu des affaires, c'est d'exiger de la part des citoyens, dans une opposition parfois un peu factice entre les gens qui sont vraiment concernés, puis ceux qui ne le sont pas, puis qui devraient peut-être pas être présents ou consultés, c'est d'exiger du citoyen qu'on fasse le test de sa représentativité puis de sa légitimité. Il y a même des propositions pour que ce soit obligatoire de faire une preuve qu'on est légitime et représentatif avant d'aller participer aux audiences publiques. Là, s'il y a eu des mémoires déposées en ce sens-là par le Conseil du patronat. Évidemment, ça c'est un élément problématique, mais ceux qui ont vécu des luttes citoyennes, un des éléments qu'on voit beaucoup, c'est le diktat du nombre. C'est qu'il faut forcer, il faut que vous travaillez fort pour faire la preuve de votre poids puis de votre représentativité. Même s'ils avaient pourtant parfois des revendications extrêmement légitimes, vous travaillez d'arrache-pied, souvent bon par pétition, parfois par des pancartes, parfois par toutes sortes de moyens pour essayer d'exister puis de faire preuve du nombre. Sauf que dans tout ce temps-là, déjà vous laissez beaucoup d'énergie et vous faites pas fermenter forcément les informations puis vos préoccupations. Et quelque chose qui est problématique, c'est que aujourd'hui c'est comme si une idée était plus bonne ou pertinente, mais plutôt portée par suffisamment de gens. S'il y a pas assez de gens qui la portent, c'est qu'elle est pas intéressante à considérer. Évidemment, là, c'est extrêmement problématique. Puis historiquement, regardez combien de petits groupes ont allumé l'ensemble de la collectivité sur des enjeux majeurs ou ont eu des préoccupations extrêmement légitimes. Donc, de tasser la pertinence d'un groupe parce qu'il est minoritaire ou très peu nombreux, c'est extrêmement problématique. Puis cette même logique quantitative puis majoritaire, c'est avec ce genre de logique-là qu'on dit, ben écoutez, regardez, il y a 95% d'appui. Bon, il y en a juste 5% là qui sont contre le projet. Oui, mais ceci, si 5%-là vit une violation majeure de ses droits ou une détérioration massive de ses conditions de vie, est-ce que ça justifie le projet? Non, pas forcément. Donc il y a un danger aussi avec cette logique majoritaire. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la plupart de nos États développés ont des systèmes en place pour protéger spécifiquement les minorités. Puis c'est aussi pour ça qu'on fait en sorte que d'habitude, quand on parle de droits de l'homme, l'ONU est très claire là-dessus, quand on parle d'enjeux de droits de l'homme, on peut pas les mettre dans la balance, les compenser avec d'autres éléments en termes d'emploi ou de compensation monétaire. Ça doit être traité de manière distincte.
Tu voulais dire les droits humains, hein, Pierre?
Ah, des droits humains, oui, je sais, j'ai un biais. Pourtant, j'enseigne le rôle des droits de l'homme, mais des droits humains, mais c'est ça, tu me verrais, dans mes slides, j'arrive quand je l'écris, mais des fois, ça revient, je m'excuse.
Je sais, je sais.
Une autre formule pernicieuse qu'on entend souvent aussi, c'est que l'acceptabilité sociale, c'est pas l'unanimité sociale. Oui, on est d'accord, mais c'est un problème de cette formule-là, c'est que c'est une bonne excuse pour ne rien faire. De toute façon, il y aura toujours des groupes minoritaires, des groupes qui sont contre. Donc, à quoi bon essayer de les écouter? Ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, on va essayer de aller chercher une majorité. Par contre, les groupes, les voix discordantes, les groupes dissidents, au contraire, on va essayer de les marginaliser plutôt que de les écouter, de traiter, de voir ce qu'ils ont à dire. Ça, c'est extrêmement dangereux. Bon, nous, on est d'accord que l'unanimité est pas forcément atteignable. Ça veut pas dire qu'on devrait pas la viser. C'est comme l'égalité. C'est un objectif, un principe, surtout les pouvoirs publics. OK, elle est pas atteignable. Ça n'empêche pas que ça devrait être un objectif d'aller chercher l'unanimité puis d'essayer de rassembler le plus de personnes possible autour des projets et non pas de camper une grosse majorité puis de stigmatiser le petit groupe. Donc voilà. Ça, c'est le test de la représentativité rapidement sur la légitimité à participer. On parle souvent d'acceptabilité sociale. Il y a le côté le social d'acceptabilité qui est un gros enjeu dans la définition aussi qu'on a tendance. Qui accepte? Qui participe pour le... est-ce que c'est les gens locaux? Est-ce que c'est les gens à l'échelle nationale? On voit aussi dans beaucoup de dossiers qu'on a une certaine tendance à faire changer ces échelles-là d'un dossier à l'autre. Ça permet des fois de tasser quelques voix discordantes. Un exemple qu'on aime beaucoup, c'est celui d'Anticosti. Pendant longtemps, jusqu'en 2014, on pensait avoir un appui local, puis les promoteurs, le gouvernement disait, écoutez, l'acceptabilité sociale, c'est les gens qui vivent sur place, c'est important pour eux, c'est eux qui doivent... c'est l'acceptabilité sociale, c'est à ce niveau local-là. Les groupes nationaux, là, ça vous regarde pas quelque part. Et à un moment, le vent a tourné aussi localement Anticosti. Et ce discours-là de dire que l'acceptabilité sociale est au niveau local a changé le « Oup, un maire défavorable, il va organiser un référendum » ou finalement, le discours a changé. Ah, mais là, on parle d'enjeux nationaux, de ressources, de souveraineté énergétique. Ça, on peut pas restreindre cette question-là au local. De toute façon, ils sont... émotif, c'est du poids dans ma cour, on peut pas vraiment traiter, juste se baser sur les gens d'Anticosti. Donc, vous voyez comment des fois on joue sur les échelles, sur la légitimité des groupes à participer, le néo-rural, l'artiste de la ville, comment ça qui prend position. Donc, c'est aussi des enjeux importants où on a tendance à exclure des groupes. Puis nous, ce qu'on dit, ce qu'on veut amener, c'est qu'on ne devrait pas demander le fardeau de faire la preuve de sa représentativité devrait plutôt être le fardeau des promoteurs d'exclure des gens. Vous voulez exclure des groupes? OK, à vous de justifier pourquoi vous excluriez des groupes. Puis on est conscient que c'est pas facile des fois de traiter d'un enjeu avec des groupes locaux, nationaux. Est-ce qu'on est obligé de tout traiter ensemble? Est-ce qu'on peut pas faire des démarches distinctes? Je pense qu'on est capable d'avoir une évaluation à différentes échelles.
Mais je commençais à te sentir émotif, Pierre.
Oui.
C'est ça, quand on aborde ces enjeux-là, Pierre devient parfois émotif. Et puis là, forcément, quand il est comme ça, il est beaucoup moins rigoureux, hein, on le voit. Alors, c'est généralement, les émotions, ça vous disqualifie à prendre la parole en public dans ce genre d'enjeux-là. Et on a tout un chapitre qui porte sur cette question-là, parce que les émotions sont des informations. Et ça, c'est important d'en tenir compte dans ce genre de dossier. Également.
Oui, juste à titre d'exemple, là, quand les gens sont émotifs, là, c'est une question de principe peut-être qu'on vient chercher avec le projet, quelque chose qui les touche vraiment profondément. C'est peut-être des gens qui sont sentis complètement exclus du processus. C'est des gens fatigués, pensez-y, là, quand vous êtes fatigué ou que vous êtes pas, vous sentez pas bien, là, c'est des indices, c'est toutes sortes d'informations. Puis ça, de manière générale, ce qu'on a vu, puis c'est l'autre aspect du livre, là, c'est dans tous les processus d'évaluation qu'on fait aujourd'hui de nos grands projets, il y a vraiment des déficits importants au niveau de l'évaluation. Donc, il y a cette question des émotions. Je me suis un petit peu perdu dans mon émotion, là. Voilà. Donc, à prendre en compte, là. Puis d'abord, d'ailleurs, les émotions sont pas juste l'apanage des citoyens, là. C'est comme, puis d'ailleurs, il y a beaucoup de promoteurs qui sont très bien préparés par des consultants des heures durant pour surtout pas être émotifs au moment d'aller en avant. Mais, en tout cas, des fois, c'est ça. les citoyens n'ont pas toujours ces ressources. Donc les émotions, les conflits aussi, ça c'est un autre aspect où on a un petit peu de misère à aborder cette question-là. Au Québec, on fait tout pour essayer de les éviter, les contenir, plutôt que de les comprendre et de mieux les gérer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut changer un peu le regard sur le conflit, puis ça fait lien avec la question de madame tantôt. Les conflits, c'est révélateur. Quand il y a un conflit, ça veut dire qu'il y a peut-être des règles du jeu à revoir, des groupes qui se sentent pas inclus. C'est peut-être que, justement, on a oublié complètement certaines alternatives, certaines options. Donc, c'est un signal. Faut les écouter, les conflits. Non pas essayer de les contenir, essayer de les comprendre. Puis, historiquement, là, oui, on aime pas la chicane. C'est une espèce d'idée reçue, là, mais regardons historiquement, là, sans les conflits, sans les luttes sociales, sans les mobilisations sociales, il y a beaucoup d'avancées institutionnelles qu'on n'aurait pas eues. L'Office de consultation publique de Montréal, les bases des règles d'expropriation, c'est la bataille des gens de Forillon qui nous les ont données au Québec. Les standards de santé publique à tellement de niveaux, des règles de base, de bienséance du milieu des affaires qui ont été gagnées par des luttes citoyennes. Combien de projets ont été bonifiés par les citoyens et de mauvais projets évités, là? Mais donc c'est ça aussi là, qu'il faut revoir peut-être le conflit là, sous une perspective positive. Ça n'empêche que le conflit, c'est un impact social qui est parfois extrêmement lourd et qu'on a tendance à négliger. Là, puis Marie-Ève a travaillé extrêmement fort là-dessus. Là, puis c'est très précieux. Et de manière plus large, toute la question des impacts sociaux. Donc le stress qui est vécu par les gens, par un projet ou juste par la rumeur d'un projet parfois, là, qui peut venir diviser la communauté. L'impact sur le tissu social quand vous avez des conflits interpersonnels. Question des inégalités. Donc en tout cas, un ensemble d'impacts sociaux qui sont extrêmement souvent laissés de côté. Et évidemment, même chose pour les impacts sur les femmes. Alors qu'il existe des outils comme l'analyse différenciée selon les sexes, on les mobilise pas, ces outils, actuellement, dans l'analyse de projet. On aurait absolument besoin de rentrer ces nouvelles grilles d'analyse dans nos grands cadres. Dernier point de l'évaluation, c'est la dimension économique. Formation en économie, en gestion de mon côté. Moi, quelque chose que je voudrais un petit peu dépasser, c'est dépasser justement la bonne vieille analyse de retombées économiques. Là. Et surtout mettre en exergue toutes ces limites. On en parle. On va voir 1 milliard, 4 milliards de retombées. Là. C'est un gros chiffre, 1 milliard. Là, mais derrière ces chiffres-là, qu'est-ce qu'on met? On rentre des taxes. Ah, des revenus fiscaux. Ah, par contre, on prend pas en compte forcément l'évitement fiscal potentiel des compagnies. Dans les taxes, on rentre d'ailleurs toutes celles des travailleurs hein, qui vont travailler dans ces projets, là, comme si c'était le promoteur lui-même. C'est quand même des taxes qu'on prend aux travailleurs, là, quelque part. On oublie toutes sortes de crédits d'impôt. Je sais pas si vous avez entendu parler des fois où les retombées sont parfois un petit peu inférieures. Il y a d'autres éléments qu'on oublie de mettre dans l'équation. Et les emplois, ces fameux emplois pour lesquels on ferait tout. Sauf qu'on oublie de dire, OK, des emplois, mais quel type d'emplois? Pour qui? Est-ce que c'est des emplois de qualité? Est-ce que c'est des emplois pour locaux? Et puis c'est des emplois qu'on va prendre d'autre part. Moi, j'ai eu une expérience assez merveilleuse dans le BAP sur le gaz de schiste. Vous aviez deux experts qui regardaient les retombées en termes d'emploi. Le premier avait fait une analyse de retombées économiques. On va créer 2000 emplois bruts. Oui, mais l'autre expert avait utilisé une analyse coût-avantage qui, lui, a une approche beaucoup plus dynamique. Il dit, oui, on va créer 2000 emplois, mais on va aller les chercher dans d'autres filières qui sont toutes en déficit de main-d'œuvre. Donc, au total, on va probablement créer zéro emploi et on va probablement détruire des PME qui génèrent d'autres emplois, donc le bilan va être négatif. Donc là, vous êtes complètement dans un autre paradigme. Donc ça aussi, c'est tous des outils de nuance qui sont extrêmement importants sur les retombées positives. Je pourrais en apporter d'autres, mais je vais me retenir. Et aussi, l'autre angle mort, c'est les retombées négatives. La valeur foncière des maisons. Oh, on n'a pas de méthodologie reconnue au Québec, on sait pas trop. On va-tu le laisser de côté? Admettons que 10 000 maisons perdent 2% de leur valeur, c'est quand même un impact non négligeable. Est-ce qu'on peut mettre au moins le plus petit dénominateur? Non, non. Dans la balance, on regarde juste les retombées positives, pas le négatif. Nos infrastructures publiques, les assurances collectives qu'on leur donne en cas d'accident. Là, il y a eu le règlement sur les hydrocarbures dépassant 10, 20 millions de dommages. Tout ce qui dépasse, c'est la collectivité qui paye. C'est une prime d'assurance, là. Allez chez l'assureur, vous la faire savoir combien ça coûte, là. Vous allez voir combien on donne de subventions. Donc, rentrez tout ça dans l'analyse. Et le dernier point de l'analyse économique qui fait le lien avec les impacts sociaux, c'est qu'on regarde pas la distribution, la répartition des pots. C'est qui les gagnants? C'est qui les perdants? C'est quoi les transferts de richesses qui ont eu lieu avec le projet? Donc, en gros, on manque complètement, d'un outil beaucoup plus adapté aux réalités. Quand on fait un bilan économique, en tout cas, on a un regard très incomplet. Puis il n'y a pas de signe que le gouvernement veuille faire le contraire. Là, on fait un bureau des grands projets. D'ailleurs, on s'intéresse qu'aux grands projets. On regarde pas un ensemble de petits projets. Là, il y a une espèce de biais. C'est mieux pour le Kodak. 500 emplois d'un coup, ça fait des belles photos. Et On nous propose un bureau d'analyse des impacts économiques qui fut indépendant, mais qui ne sera finalement plus indépendant selon les dernières annonces, et qui, lui, veut mettre de l'avant ses retombées économiques. Mais c'est pas ça dont on a besoin. On n'a pas besoin d'une agence de cheerleading pour les grands projets, là, payés à même les contribuables. On a besoin d'une meilleurs experts qui font justement cette analyse beaucoup plus large. Voilà.
C'est vrai que je te sentais émotif, là, mon cher. Tu n'en étais pas moins rigoureux. En fait, moi, j'aimerais conclure sur la notion de consentement que vous voyez qui est implicite dans le titre de l'ouvrage le titre qu'on a choisi. Sans oui, c'est non. En fait, on se l'est fait, dans certains milieux féministes, on se l'est fait reprocher. D'ailleurs, si vous voulez aborder la question, ça me fera plaisir d'essayer d'y répondre parce que je suis définitivement convaincue de la justesse de ce titre-là. Pour avoir travaillé avec des communautés aux prises avec des grands projets, je sais que ces gens-là n'ont pas consenti au développement qui leur est imposé. Et en fait, ça revient à notre idée de départ, c'est-à-dire que croire que les communautés et les communautés sont choyées et qu'elles devraient se sentir choyées parce qu'elles ont été choisies pour le développement de grands projets.
C'était les oiseaux sur ton...
Je ne sais pas. Enfin bon, c'est ça. Oui, c'est sûr, là. C'est ça qui... ça doit être ça. C'est ça, croire d'emblée. En fait, c'est comme si on se disait, il y avait qu'à la regarder, la communauté, on voyait bien qu'elle voulait. C'est ça. Et c'est la même idée. C'est effectivement la même idée. Alors que les citoyens, les communautés ont le droit à un milieu de vie exempt d'agression de la même manière que les femmes ont le droit à un milieu de vie exempt d'agression. Et ce n'est pas aux citoyens de faire la démonstration qu'ils ne consentent pas au grand projet. En fait, on veut renverser le fardeau de la preuve. C'est aux promoteurs à faire la démonstration qu'ils ont obtenu l'approbation et le consentement de la communauté où ils veulent s'implanter. C'est pas du tout la même dynamique. Et c'est ce qu'on propose là, on est parfaitement conscient que c'est un changement de paradigme. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que les promoteurs doivent justement faire la démonstration qu'ils ont obtenu ce consentement-là et qu'ils ont tendu vers une plus grande acceptation de leur projet davantage que de chercher à circonscrire puis à isoler les voix discordantes pour faire la démonstration qu'ils peuvent aller de l'avant avec leur projet. Parce que si on procède autrement, finalement, c'est banaliser la perturbation, c'est même la nier, la perturbation d'un milieu de vie que peut représenter les grands projets de développement. Donc, je vous remercie.